je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. On a fait libéré. Père, je viens dans ta maison.
Je viens dans ta maison.
Je veux te rencontrer.
Je veux te rencontrer.
Tel que je suis. Je me souviens des bienfaits de l'Éternel et je me reverrai son salon dans l'assemblée des saints. Oh, et alors que nous chantons, ton esprit, mon âme, Père, je viens dans ta maison. Tu veux en ces lieux, tu es le bienvenu, Jésus. Sois le bien. communier avec toi et de t'offrir le meilleur, car tu es le Dieu qui mérite tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent. Tu es plus que toi, manifeste-toi, manifeste-toi en ce lieu, Jésus. Et ta puissance, ta présence dans nos vies, nous sommes reconnaissants en ce lieu. Nos cœurs sont reconnaissants devant la puissance de ton nom. Ton amour manifesté en Jésus, ton amour, ta puissance. Oh. Et ta présence, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance. Dans ma vie, je te loue pour ton amour,
ton amour
manifesté en Jésus,
ta puissance
et ta présence. Tu n'as pas attendu que nous soyons excellents. Tu n'as pas attendu que nous soyons meilleurs pour te déposséder de ta gloire et descendre parmi les hommes pour accomplir la destinée de chacun d'entre nous. Merci pour ton amour. Oh, nous sommes reconnaissants et ta présence. Te révère, règne sur le trône de mon cœur. Sois mon Dieu, sois révéré dans ma vie. Que ma vie fasse ton plaisir. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es. Tu es excellent, parfait dans tout. toutes tes voies. Devant toi, la création s'incline. Devant toi, la mer rouge s'écarte. Car tu es. Je veux puiser ma force. Tu es, tu es, tu es, tu es. Oh, tu es ma source.
Tu es ma source.
Tu es ma source.
Tu es ma source.
Tu es ma paix.
Tu es ma paix.
En toi, je choisis d'être. En toi, je choisis de rester caché, car tes paroles sont les paroles de la vie, tes projets sont les projets de vie. Tu es ma paix, je choisis de garder l'assurance dans le nom de Jésus.
Oh,
en toi, je suis caché, tu es ma paix. C'est pour te louer, c'est pour t'adorer, c'est pour t'acclamer. C'est maintenant que ça se passe, car tu vis à l'intérieur de nous. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. regarde ta sainteté.
Quand je regarde,
je veux te contempler encore ce matin. Tu es le Dieu excellent, excellent en toutes choses.
Je contemple ta beauté,
les choses qui m'entourent,
les choses qui
m'entourent ne valent rien. Je les regarde comme de la boue quand je vois ta splendeur.
Découvre la joie de chanter.
De déposer ma vie à tes pieds. Prends le contrôle. Sois mon maître, sois mon Dieu. Il n'y a que toi, que toi, que toi.
Qui m'arrive,
tu es la raison pour laquelle.
les faits de ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Alors reçois chaleureusement ce matin la pleine de nos cœurs sincères, au roi des rois, au Seigneur des Seigneurs, au Dieu tout-puissant, à celui qui règne à jamais, reçois Seigneur. Lui seul est digne de cette acclamation ce matin. Lui seul est digne. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Dieu ce matin? Qu'il est bon d'être dans sa présence. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel, qui est dans la joie ce matin? Amen. Nous aurions pu y être ailleurs, mais nous sommes là ce matin, dans sa merveilleuse présence qui nous inonde et qui change nos vies. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Pax Centre Chrétien, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, dans la demeure des champions et des championnes, ceux qui ont choisi de faire la différence. Amen. Est-ce que nous pouvons également souhaiter la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui participent à ce culte avec nous depuis Internet? Ils font partie de notre famille et nous sommes heureux de partager ces temps excellents avec eux ce matin. Amen. Amen. Alors avant de prendre place, je vous prie de saluer la majesté, l'excellence assise à côté de vous. Est-ce que tu peux lui dire, je suis contente de te voir ce matin, content de te voir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce matin, avant de passer un moment important de ce culte qui est le moment des dîmes et des offrandes, nous avons quelques bonnes nouvelles à vous communiquer. Alors ce matin, je souhaiterais partager avec vous et vous annoncer quatre moments, quatre grands moments de qualité qui va se dérouler à ICC durant cette période estivale. Alors, qu'est-ce qu'un moment de qualité? Selon Gary Chapman, un célèbre journaliste et écrivain, certains peut-être le connaissent, il a écrit un best-seller international intitulé « Les cinq langages de l'amour ». Et selon lui, un de ces langages de l'amour, ce sont les grands moments de qualité. Alors les moments de qualité, ce sont des moments importants de nos vies, des moments mis à part, des moments de communion fraternelle, de partage, de découverte, de réjouissance. Amen. Et lorsque vous avez tous ces moments-là, ces moments constituent pour nous une banque de souvenirs qui reste gravée dans nos mémoires, vitam aeternam, et que nous pouvons puiser lorsque nous en avons besoin. Et ces moments de qualité sont également des moments qui nous permettent de démontrer l'amour de Dieu les uns pour les autres. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire un moment de qualité? Amen. Alors le premier moment de qualité qui va se dérouler durant cette période estivale à ICC est un moment de communion fraternelle organisé par le ministère des Hommes d'Impact et le ministère des Activités Récréatives et Sportives et l'association Génération Impact organise pour tous les hommes une journée spéciale hommes, pères et enfants. Que quelqu'un dise gloire à Dieu, c'est important, c'est un moment de qualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc ce moment va se dérouler le samedi 3 août de 11h à 17h à la base de loisirs de Créteil, 9 rue Jean Gabin, 94 000 Créteil. Donc si vous êtes un homme, un père, alors ce moment de qualité est pour vous et vous est spécialement dédié. Donc venons nombreux encourager nos enfants, nos petits frères à partager ces moments spécialement dans la bonne humeur, la convivialité et la communion fraternelle. Par ailleurs, plusieurs d'autres moments comme cela vont être organisés au sein de ICC. Vous aurez bientôt
le samedi 10 août de 9h à 17h, une excursion à la plage de Honfleur. Donc notez dès maintenant cette date et ces horaires dans vos agendas. Pour plus d'informations sur toutes ces activités, vous pouvez également écrire à activité@impactcentrechretien.com. Vous avez également un stand mis à votre disposition à l'extérieur de l'auditorium à la fin de chaque culte. Deuxième moment de qualité, c'est un moment de découverte. Alors, Impact École Biblique International organise un moment de découverte, un temps convivial et enrichissant autour d'une collation rafraîchissante. Donc venons nombreux découvrir le menu varié et consistant de l'école biblique qui va nous proposer un menu spécial pour la rentrée prochaine. Donc que vous connaissez l'école ou que vous ne la connaissez pas encore, venez nombreux, nous avons des nouveautés à vous proposer. Un stand est également mis à votre disposition à l'extérieur de l'auditorium avec des animations, des lots à gagner, dont une scolarité offerte. Alors je redis, des lots à gagner, dont une scolarité offerte. Ce n'est vraiment pas négligeable. Amen. Amen. Donc vous avez reçu ce matin, lorsque vous êtes arrivé, ce ticket. Voilà, donc ce sont des tickets qui vous permettent de remporter des lots. Alors ne rentrez pas trop vite après le culte, passez au stand IEBI parce que votre ticket est peut-être le ticket gagnant. Est-ce que tu peux checker comme ça ton voisin et tu lui dis ne rentre pas trop vite, ton ticket est peut-être le ticket gagnant. Amen. Amen. Donc pour toute information supplémentaire, vous pouvez aussi écrire à contact@ecolebiblique.com. Troisième grand moment de qualité, c'est un moment de partage organisé par le département On est ensemble. Relais alimentaire du ministère de la Solidarité, des œuvres sociales et humanitaires, d'ICC Boissy-Saint-Léger. Donc, vous remerciez également de votre implication lors de la première opération des graines de champions qui s'est déroulée en avril dernier. Et vous convie à une prolongation qui se poursuit tout au long de l'année 2013. Donc nous demandons à tous les parents d'accompagner leurs enfants à offrir des denrées alimentaires de longue durée de conservation, telles que du riz, des pâtes, des conserves. Ce sont également des produits d'entretien et de toilette destinés aux bien-aimés qui sont dans le besoin. Encourageons nos enfants à manifester les lois du royaume en donnant et en semant dès leur plus jeune âge, puisque la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il n'en se détournera pas. » Amen. Amen. Voilà, donc pour tout renseignement complémentaire, merci de nous retrouver à l'espace dédié à cet effet, près de la librairie, après chaque culte, ou nous écrire à l'adresse email onestensemble@impactcentrechretien.com. Quatrième et dernier moment de qualité est un moment de réjouissance. Donc samedi prochain, le 3 août, à 14h, nous aurons la bénédiction nuptiale de nos bien-aimés Toulabor et Omer Fon Goukoé, pardon d'avance si je n'ai pas bien prononcé, qui aura lieu à l'auditorium d'ICC de Boissy-Saint-Léger. Donc venons nombreux les soutenir et nous réjouir avec eux. Amen. Voilà pour ce qui était des moments de qualité pour ce matin. Est-ce que nous pouvons simplement nous tenir debout pour ceux qui le peuvent, afin d'amener à la maison du trésor ce que nous avons préparé d'avance pour notre Seigneur? C'est également un moment de qualité. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci encore pour ta merveilleuse présence au milieu de nous, Seigneur, qui fait toute la différence. Merci, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons sur cette terre vient de toi. Il n'y a rien qui vienne de nous-mêmes. La force que tu nous donnes chaque matin pour nous lever, pour aller travailler, Seigneur, vient de toi. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons avec joie, sans regret, amener à ta maison ce que nous avons préparé d'avance, Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous donne. Ta parole dit que celui qui sème abondamment récolte abondamment. Alors, Seigneur, nous voulons apporter avec joie. Bénis ces offrandes. Accorde-nous la grâce de les utiliser à bon escient afin que ton royaume avance sur cette terre. Nous bénissons ton saint nom dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer bien fort notre Seigneur?
Acclamé en Seigneur, tu es Adonai, notre Seigneur, Adonai. Tu
Nous sommes réunis ce matin en ce lieu sur une invitation divine. Tu nous as convoqués encore ce matin à cette sainte invitation, cette sainte convocation. Et Seigneur, nous avons voulu répondre présent. Nous avons voulu te dire, Seigneur, oui, nous acceptons de venir. Nous acceptons de venir tous ensemble, en famille, tous ensemble, venir célébrer et adorer ton nom. Venir simplement entendre notre Père Céleste nous parler, nous enseigner, nous conseiller, nous équiper, nous fortifier, nous vivifier. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Parce que c'est ta présence qui donne du sens à ce moment. C'est ta présence qui donne du relief et de la consistance à ce moment, Seigneur. Merci. Alléluia.
Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur,
Seigneur,
car ton nom
est grand et digne.
Je chante louange à ton nom, Seigneur,
Seigneur,
Seigneur, louange à ton nom, Seigneur,
Seigneur.
Oh, oh, car ton nom je chante louange à ton nom,
Seigneur,
Seigneur, louange à ton nom, je veux t'adorer, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Ce matin je chante louange à ton nom, Seigneur,
Seigneur,
louange à ton nom, car tu m'as aimé le premier, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Là où je suis, c'est l'expression de mon adoration. Louange à ton nom, tu es si bon, Seigneur, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Que tout mon cœur je chante. Je chante louange à ton nom, Seigneur,
Seigneur,
je veux chanter, je veux chanter, car ton nom est grand et digne de louange, de toutes mes forces.
louange à ton
Seigneur,
Jésus, car ton nom est grand et digne de louange.
Est-ce qu'il y a une femme qui peut le dire?
Je chante louange à ton nom. Louange à ton nom
devant le trône de Dieu,
Jésus,
car
ton nom est grand et digne de louange.
Maintenant j'appelle un homme, un adorateur.
Je chante louange à ton nom, Seigneur.
Louange
à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange.
Est-ce que tous ensemble nous pouvons dire
louange à ton nom?
Nous voulons nous joindre, nous voulons nous joindre dans cet élan d'adoration.
Je chante louange,
louange, louange, louange,
louange à ton
honneur, honneur, honneur,
car ton nom est grand et Dieu.
Merci Seigneur. Merci. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un d'autre peut le dire encore plus fort? Alléluia. Bien-aimés, vous savez, chaque dimanche sur toute la surface de la terre, les nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux célèbrent le roi de gloire. Chaque dimanche, des gens se rassemblent pour célébrer, pour adorer, également pour acclamer le roi de gloire. Et si tu veux que le Seigneur porte un regard sur cette assemblée, alors il faut que nous puissions nous distinguer. Parce que dans d'autres endroits, d'autres célèbrent, d'autres acclament. Alors ne reste pas tiède, mais poussons les cris de joie en cet endroit. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC. C'est une joie de nous retrouver tous ensemble chaque dimanche. Alors peut-être que tu es venu pour la première fois et peut-être même qu'on t'a forcé à venir. Bien-aimés, sois tranquille. De toutes les manières, tu es là. Ce n'est pas la peine d'être fâché, tu es là. Alors profite de ce moment et sache une chose, Dieu a quelque chose pour toi. Tu ne t'es pas déplacé enfin. Amen. Avant de t'asseoir, s'il te plaît, salue la personne à côté de toi. Je vous invite à prendre place. Vous êtes vraiment les bienvenus. Les bienvenus à ICC. Amen. Avant d'aller plus loin, nous voulons simplement prendre le temps de célébrer le Seigneur pour tous les campus ICC à travers le monde francophone. Et nous voulons également célébrer Dieu pour toutes ces personnes qui sont avec nous, qui aimeraient être dans les campus, mais qui habitent vraiment trop loin et qui sont avec nous, qui nous suivent par les nouvelles technologies et qui sont de tout cœur avec nous. Vous êtes les bienvenus et en l'esprit, il n'y a pas de distance. Donc, on est ensemble. Est-ce qu'on peut les saluer? Voilà, soyez les bienvenus. Bienvenue à ICC. Amen. Alors, ce matin, ou cet après-midi, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire. Bon, cet après-midi, puisqu'il est midi passé, je veux commencer par juste transmettre les vives et chaleureuses salutations de ICC Bruxelles. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous pensons souvent à vous. Même si vous ne pensez pas beaucoup à nous, nous on pense à vous. Voilà. Et juste une chose pour donner une information qui est également une nouvelle de taille. Le pasteur Yvan et le pasteur Maud aussi, je crois, étaient hier pour un événement particulier qui réjouit notre cœur, puisque ça montre encore une fois que le royaume avance. Pasteur Yvan et pasteur Modestine étaient hier à l'inauguration du nouveau et splendide campus, ou plutôt temple, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, campus de KICC à Londres. KICC, c'est l'église du pasteur Mathieu Hachimolo. Et d'après ce que j'ai entendu dire, Pour faire le tour de la visite, ça peut prendre des heures tellement c'est grand. Et nous voulons vraiment bénir Dieu parce que c'est une percée. Alléluia, c'est une percée. En Europe, voir ça en Europe, c'est vraiment une percée. Et lorsqu'il y a une percée, lorsqu'il y a une brèche qui est ouverte, ça veut dire que derrière, ceux qui comprennent et ceux qui savent s'ajuster peuvent aussi emprunter la brèche. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, non pas, en fait au départ, ce n'est pas un enseignement, mais j'ai l'impression que même quand je ne veux pas enseigner, quelque part, c'est comme si j'enseigne quand même. Mais au départ, l'idée vraiment, c'était de donner un témoignage. Il ne s'agit pas d'un enseignement en soi, mais c'est juste un partage d'expérience. Un récit qui relate des faits qui correspondent à ma vie, à comment j'ai grandi avec le Seigneur. Pas pour dire que ma vie est un exemple en soi. Je crois que par la grâce de Dieu, à plusieurs égards, c'est un exemple. Mais je ne veux pas dire que je suis arrivé quelque part. Je crois que nous sommes tous en construction. Je ne dis pas du tout que je suis arrivé. Je veux simplement prendre le temps aujourd'hui de parler un peu de ma marche avec le Seigneur et comment durant cette marche j'ai tiré quelques enseignements qui m'ont beaucoup aidé à avancer avec Dieu et par la grâce de Dieu, à continuer à le faire encore aujourd'hui. C'est partager des choses qui m'ont aidé. Ça peut, si ça m'a aidé, ça peut t'aider toi aussi. Et le titre de ce message, parce qu'il faut donner un titre à un message, c'est simplement « Ta vie peut et doit compter ». Dis-moi « Amen ». Ta vie peut et doit compter. Pourquoi je dis ça? Parce que, au départ, pour moi, c'était pas dit, c'était pas garanti que ma vie puisse compter réellement sur la terre un jour. Mais après avoir rencontré le Seigneur et en marchant avec lui jour après jour, je me rends compte que par la grâce de Dieu, par le fruit qui émane de ma vie, d'autres vies sont transformées, d'autres vies sont impactées. Et si Dieu a pu le faire avec moi, il peut le faire avec toi. Parce que la vérité, c'est que je n'ai rien de plus que toi. Absolument rien. Pour peu que tu aies le Saint-Esprit en toi, je n'ai rien de. On a la même chose. On a ce même dépôt, le dépôt divin. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Alléluia. Alors, je vais simplement illustrer, raconter certaines choses, certains événements de ma vie chrétienne, et faire ressortir de certains de ces événements des enseignements qui vont nous aider tous. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 1, au verset 20. La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Que quelqu'un dise Amen. Alors qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que si tu sais observer la création, si tu regardes comment les choses sont ordonnées dans la nature, quand tu regardes tout cela, tu dois comprendre que derrière, il y a un Dieu invisible qui existe et qui est réel. Parce que toutes ces choses ne peuvent pas exister sans que lui, il n'existe. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier enseignement que j'ai tiré de la vie, c'est que Dieu est réel. C'est que Dieu est réel. Et c'est à l'âge de 8 ans ou 9 ans, en tout cas, je ne sais plus si c'est 8 ou 9, mais en tout cas, j'avais moins de 10 ans. C'est à l'âge de 8 ou 9 ans que j'ai eu la conviction certaine qu'il y avait un Dieu créateur dans l'univers. Même si je ne le connaissais pas et même si je ne le voyais pas, j'ai eu la conviction profonde que Dieu existait et que Dieu était réel. Comment j'ai eu cette conviction? C'était un jour, ça devait être un jour de printemps, je crois, c'est certainement au mois de mars. Et j'étais à la maison, j'étais dans le salon, et j'étais devant la baie vitrée, la grande fenêtre, la baie vitrée, j'étais assis là. Et c'était un jour où il pleuvait, et j'étais là, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais là. Et j'étais en train de regarder ce qui se passait dehors. J'étais en train de regarder les arbres, dont les feuilles étaient mouillées par la pluie. J'étais en train de regarder les nuages qui passaient. Je regardais les gens également qui passaient avec leur parapluie. Et j'ai commencé à méditer. Et j'ai commencé à me poser des questions sur l'éternité et sur Dieu. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Rassurez-vous. Je n'avais pas des envies suicidaires. Je me posais juste des questions. Alléluia. Voilà. Et je me suis posé cette question. Et à un moment donné, donc je me suis posé la question de l'existence, de la réalité de Dieu. Et il y a une seule question qui m'a aidé à comprendre et qui m'a aidé à me prouver à moi-même que Dieu était réel. Je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce que c'est que rien? S'il n'y avait rien, qu'est-ce que ce serait le rien? J'avais 8 ans, je me posais cette question. Rien, c'est-à-dire le vide absolu. Le vide absolu. Est-ce que le vide absolu peut engendrer une création? C'est ça la question que je me suis posée. Est-ce que du vide on peut en tirer une création? Et la réponse que j'ai trouvée à 8 ou 9 ans, c'est que le vide absolu ne peut pas engendrer, ne peut pas engendrer une création. Si vous prenez tous les meilleurs scientifiques, tous les meilleurs savants du monde, de tous les pays, les plus brillants, et que vous les mettez devant une équation, vous prenez un cube transparent, un cube vide, un grand cube vide. Quand je dis vide, c'est-à-dire c'est le vide absolu. Il n'y a pas un atome, il n'y a rien. Et si, à partir de ce vide absolu, ces grands savants arrivent à créer la vie, alors oui, je peux croire que Dieu n'existe pas. Mais s'ils ne parviennent pas, ça prouve de manière certaine que Dieu existe. Pourquoi? Parce que si Dieu n'existait pas et que le vide peut produire quelque chose, alors ok, le vide peut produire quelque chose, l'homme peut produire quelque chose aussi. Mais si le vide, si les hommes, malgré leur intelligence, malgré leur savoir, n'arrivent pas à créer quelque chose à partir de rien, et que nous soyons là, ça veut dire que forcément Dieu existe. Est-ce que quelqu'un me suit? En tout cas, je ne sais pas si tu me suis dans mon raisonnement, mais c'est mon raisonnement, le raisonnement que j'avais il y a 8 ans. Le vide ne peut rien créer. Si tu existes, et si j'existe, ce n'est pas à cause du vide. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a proclamé une parole et il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'était mes premières pensées, ce que j'appelle les pensées d'éternité. J'ai eu ça à 8, 9 ans. Ensuite, après avoir compris, après avoir cru de manière forte que Dieu existait, je me suis mis à la recherche de ce Dieu-là, à la recherche de ce grand Dieu créateur. Et je n'ai pas fait cette recherche de manière directe. En fait, cette recherche de Dieu, je l'ai faite de manière indirecte par le biais de ma mère, par le biais de ma maman. Ma maman, vous la connaissez en principe, parce qu'elle est là au milieu de vous. Elle s'appelle Maman Jeanne. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme exceptionnelle. Maman, est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que quelqu'un peut juste acclamer le Seigneur pour cette femme? Maman a toujours eu la soif de Dieu. Autant que je me rappelle, elle a toujours cherché Dieu. Toujours. Et c'est au travers d'elle que nous aussi, ses enfants, nous avons cherché Dieu. De manière indirecte. Je vous assure, elle a cherché Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 17, verset 27, la Bible dit... Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Que quelqu'un dise en tâtonnant. Il a voulu donc qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Que quelqu'un dise amen. S'efforcer de le trouver en tâtonnant. Et je vous assure, c'est exactement ce que ma mère a fait. Et c'est ce que nous avons fait indirectement avec elle. Nous avons cherché Dieu. Nous avons cherché Dieu en tâtonnant. En tâtonnant, je vous dis. On ne l'a pas trouvé du premier coup. Je me rappelle tous les endroits où maman nous a emmenés cherchant Dieu. Des endroits où il n'était pas là-bas. Mais elle cherchait tellement Dieu. Elle a essayé là. C'était pas ça. Elle a essayé là, c'était pas ça. Elle a essayé là-bas, c'était pas ça. Mais à un moment, elle l'a trouvé. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle un endroit où maman cherchait Dieu et nous aussi. On allait, c'était dans une. Donc on disait que Dieu est là-bas. Oui, Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. Donc on allait toutes les semaines, je me rappelle. On allait là-bas. C'était dans une maison où les gens se réunissaient là. Et puis. Ce Dieu-là dont il parlait, il avait un nom. Et à chaque fois qu'on allait, on chantait toujours une chanson. Là. Je me rappelle, une chanson. C'était en patois,
Je ne me rappelle plus des paroles, mais je me rappelle de l'air. Une chanson. Tata Simon, Tata Simon, da, 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 Tata Simon, Tata Simon. Tout le monde, Tata Simon, Tata. Et puis, au final, on a vu que Tata Simon, là. On a laissé Tata Simon. Et maman nous a emmenés ailleurs. Parce qu'elle s'est dit, non, là-bas, il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Elle nous a emmenés dans un endroit, alors c'était différent. Alors là, tout le monde était habillé en blanc. Tout le monde, de la tête jusqu'aux pieds, tout le monde était en blanc. Et donc on allait là-bas avec maman et puis mes frères. Pour nous, on restait souvent au fond. Et puis on voyait les gens qui tremblaient, des cris partout, des gens qui étaient en transe. Puis on se regardait avec mes frères, on dit, hey, est-ce que Dieu est là? Dis à ton voisin, Dieu se trouve en tâtonnant. On a été là-bas, on a vu qu'il n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. On a continué, maman a continué de chercher. Et quand elle cherchait quelque chose, quand elle trouvait, après elle nous amenait aussi. Donc nous aussi on allait. Et on a cru trouver Dieu auprès d'une dame. Il y avait une dame qui habitait dans la ville où on habitait là. Et elle, c'était, vous voyez, une sorte de voyante. Une voyante ou bien des sortes de prophétesses là. Et puis, en tout cas, les gens disaient que quand elle parle, c'est Dieu qui parle. Et donc elle venait à la maison. Et puis donc, on était là, il fallait, quand elle venait, il y avait aussi d'autres personnes qui venaient. Et puis elle était là, elle avait des paroles là. Et puis elle jetait un peu des choses dans la maison là. Voilà, la puissance de Dieu. Voilà, elle parlait. Et puis une fois, j'ai cru vraiment que Dieu était là. Au travers d'elle. Parce qu'une fois, elle m'a dit quelque chose que je n'avais jamais dit à personne, mais que je pensais. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, toi, tu penses ça. Et je me suis dit, certainement, Dieu est là. Et puis elle disait, mais Dieu, c'était pas Dieu. Hein. Et elle disait que il fallait, ce qui manquait dans cette famille, c'est qu'il fallait honorer les ancêtres. Honorer les ancêtres. Donc, il fallait, je me rappelle, pendant une période, c'était une période, on dit à ton voisin, on tâtonnait, hein. Donc, il fallait avoir, quand on mangeait, il fallait avoir une assiette spéciale pour les ancêtres. C'est-à-dire que la nourriture, là, avant de vous servir, servez d'abord les ancêtres, parce qu'il faut honorer les ancêtres. C'est comme ça que Dieu se manifeste. C'est ce qu'on croyait. Donc, à tour de rôle avec mes frères, on allait déposer au fond du couloir. Il y avait une petite pièce là-bas. On a dit, bon, ça, c'est là-bas qu'on va mettre les ancêtres, parce que, voilà. Donc, c'est là-bas qu'on amenait, les assiettes. Et puis parfois avec mes frères, on se regardait, on disait, mais finalement ces ancêtres-là, est-ce qu'ils mangent vraiment? Parce que à chaque fois, on revenait avec la nourriture qui avait dépéri pour rien. Puis on se disait, mais on aurait pu manger ça au lieu de laisser aux ancêtres. Dis à ton voisin, Dieu se trouve en tâtonnant. Alléluia. Maman a cherché Dieu. Et nous, indirectement, nous l'avons cherché aussi. Jusqu'au jour où nous l'avons trouvé. Alléluia. Jusqu'au jour où nous l'avons trouvé. Et Dieu est réel. Et lorsque nous l'avons trouvé, et donc je ramène ça maintenant à mon cas personnel, lorsque je l'ai trouvé, j'ai compris, j'ai tiré un deuxième enseignement. C'est que Dieu m'aime tel que je suis et quel que soit mon passé. Dieu t'aime, bien-aimé, tel que tu es, quel que soit ton passé. Il t'aime tel que tu es, ça ne veut pas dire qu'il souhaite que tu restes tel que tu es. Amen. Je dis simplement, il t'aime tel que tu es là. Et quel que soit ton passé. Et il veut te faire avancer avec lui. Il veut te faire grandir en lui. Alléluia. Il t'aime. Jean chapitre 3, verset 16. Ce verset que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même quelqu'un comme Saül de Tarse, la Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Il participait au meurtre, il approuvait le meurtre des disciples. La Bible dit que même cet homme qui combattait l'Église, Dieu l'a aimé et Dieu l'a fait rentrer dans son royaume. et il est devenu Paul, est devenu avec, il est devenu un des plus grands secrétaires avec Moïse que Dieu s'est choisi pour écrire la Bible que nous lisons. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai compris que Dieu m'aime tel que je suis et quel que soit mon passé. Et j'ai compris cela de manière claire un jour particulier de ma vie qui a été pour moi ce que j'appelle le point d'inflexion. Le point d'inflexion. Je vais expliquer. Je revenais d'une réunion à l'église, l'église où j'allais à l'époque. C'était dans les premiers mois de ma conversion, je revenais, on nous avait parlé de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, du sacrifice de Jésus à la croix et tout ce que ça impliquait pour nous aujourd'hui, tout ce que ça impliquait pour moi aujourd'hui. Et quand je suis rentré, durant le chemin du retour, je méditais sur cela. Je suis rentré à la maison, je me suis enfermé dans la chambre, je me suis allongé sur mon lit et j'ai continué à méditer. Et à un moment donné, j'avais du mal à accepter la parole qu'on venait de me donner. Cette parole qui disait que Jésus est mort à cause de moi, il a donné sa vie à cause de moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour me sauver. Je sais qu'il a donné sa vie pour tout le monde, pour toi et pour moi. Mais je sais aussi que si il y avait une seule personne, que j'étais la seule personne à sauver, il aurait fait la même chose qu'il a faite pour nous tous. Parce qu'il a dit aux pharisiens, aux scribes, il a dit, lequel d'entre vous qui a 100 brebis et dont une se perde, s'égare, lequel d'entre vous ne laisserait pas les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée jusqu'à ce qu'il la trouve? Alléluia. Et ça m'a fait comprendre quel amour, une dimension de l'amour que Dieu a manifesté pour moi. Et j'étais donc dans ma chambre, j'étais dans mon lit et j'avais du mal à accepter ça. Parce que je me disais qu'il était tout à fait normal que quelqu'un comme moi, avec tout ce que j'ai fait, avec mon passé, que quelqu'un comme moi ne soit pas aimé. Pour moi, c'était tout à fait normal. Et quand je méditais sur ça, je me disais, Seigneur, c'est pas normal que tu m'aimes, ce n'est pas normal. Et j'entendais cette voix au-dedans de moi, cette voix douce qui répétait, je t'aime, je t'aime. Et moi, je disais, non, tu ne peux pas m'aimer, tu ne peux pas, parce qu'on n'aime pas quelqu'un comme moi, on n'aime pas quelqu'un qui a un tel passé. Ce n'est pas possible. Et j'entendais cette voix qui dit, je t'aime. Je dis non. Et je commence à pleurer. Je dis, mais comment on peut m'aimer? Et cette voix me dit, je t'aime. Et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je dis, mais ce n'est pas possible. Comment peux-tu m'aimer à tel point que tu aies donné ta vie pour moi? Je ne mérite pas ça. Et il me dit, je t'aime. Je t'aime. Et ce jour a été pour moi ce que j'appelle le point d'inflexion. J'appelle ça le point d'inflexion, peut-être que d'autres appellent ça autrement. Mais le point d'inflexion, bibliquement parlant, c'est lorsque tu es capable de dire ce que l'apôtre Pierre a dit à Jésus dans Jean chapitre 6, verset 68. Alors que Jésus avait prononcé une parole qui était dure, la Bible dit que un grand nombre de ceux qui le suivaient ont arrêté de le suivre. Et Jésus se retourne vers les 12 en leur posant la question, et vous, allez-vous m'abandonner aussi? Et c'est là que l'apôtre Pierre s'avance et dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul possèdes les paroles de la vie éternelle. Toi seul, toi seul. C'est ce que j'appelle le point d'inflexion. C'est ce que j'appelle le moment où le diable, lorsqu'il te voit, il sait que c'est fini. Il ne pourra plus jamais te faire revenir en arrière. Plus jamais. Il le sait. Il le sait. Parce que tu dis, à qui puis-je aller, Seigneur? Même si on me prend tout ce que j'ai, même si on me prend tous les trésors, je n'aurai pas d'autre choix que de continuer à te suivre. C'est ce que j'appelle le point d'inflexion. Et lorsque le diable voit ça, il sait qu'il ne pourra plus jamais te ramener en arrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de te bloquer. Il va essayer de t'empêcher d'avancer. Mais il sait que c'est fini. C'est fini. Tu passeras l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. Le point d'inflexion. Et c'est à ce moment que j'ai compris que Dieu m'aime tel que je suis et quel que soit mon passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ensuite, j'ai continué à avancer. J'ai continué à avancer avec le Seigneur. Et j'ai vu des personnes qui venaient à l'église en même temps que moi, qui étaient peut-être plus âgées dans la foi en termes d'âge, mais avec des maturités diverses. Et c'est là que j'en ai tiré un troisième enseignement. Ce troisième enseignement, c'est quoi? C'est simplement, j'ai compris, j'ai constaté que si tu n'as pas soif de Dieu, si tu n'as pas la soif de Dieu, tu ne pourras pas grandir en lui. Tu ne pourras pas grandir en Christ. Si tu n'as pas la soif de sa présence, la soif de sa parole, tu ne pourras pas grandir. Tu seras sauvé, certes, mais tu resteras un bébé spirituel, un épios. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. La Bible dit dans Psaume, chapitre 1, versets 2 et 3, la Bible dit, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien-aimé, si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne pourras pas réellement grandir en maturité. Tu ne pourras pas réellement grandir en Christ. Dès ma conversion, j'ai été un assoiffé de la parole de Dieu et un assoiffé de la présence de Dieu. Ça se matérialisait par différentes choses, par mes temps de prière individuelle, le matin, le soir, le temps de prière de groupe, de communion fraternelle, de réunion d'enseignement. Je me rappelle à l'époque, avec mes frères, chaque soir, on se retrouvait tellement on avait soif de Dieu, soif de sa parole, soif de le découvrir. On se retrouvait chaque soir et on partageait la Bible, chaque soir. On était des bébés spirituels, on était des nouveaux chrétiens, des personnes qui avaient quelques mois dans le Seigneur. Donc les livres un peu compliqués comme Lévitique, on évitait. Mais par contre, on partageait de manière abondante sur toutes les choses simples que l'on découvrait dans la Bible, notamment les proverbes. Et Dieu fait bien les choses. Il y a 31 proverbes comme 31 jours de mois, dans un mois. Donc chaque jour, chaque soir, on se réunissait et puis on partageait. Là aujourd'hui, on est le 28. Eh bien, le 28 à l'époque, on se réunissait et puis on partageait sur le livre de Proverbes, chapitre 28. Et ce qui était bien, c'est que le livre des Proverbes, c'est un livre qui est simple. Tu le lis, tu le comprends. Parce que c'est pratico-pratique. La Bible dit que l'insensé fait ceci, le juste fait cela, le sage fait cela. Et donc chaque jour, on méditait et puis on se questionnait comment on peut appliquer ça dans notre vie au quotidien. C'était simple. Mais ça nous a permis de grandir. Pourquoi? Parce qu'on avait la soif. La soif. Je n'ai jamais manqué un culte parce qu'il y avait la grève, parce qu'il y avait la neige, parce qu'il faisait trop chaud. J'étais assidu. Pourquoi? Parce que j'avais soif. J'avais soif. Ça s'est matérialisé par quoi? Je me rappelle à l'époque, avec mon budget, j'avais un budget spécial croissance spirituelle. Et donc chaque mois, j'achetais des CD de musique chrétienne, j'achetais des Bibles. Je ne sais pas en fait si à la maison, s'il y a une version de Bible que je n'ai pas. Je ne sais pas. La Bible Louis II, la Bible Semeur, la parole vivante, King James Version, Amplified Bible, Dex, tout ça. Et ça c'est, quand je dis ça, Je ne suis pas en train de dire que tu dois forcément faire la même chose. Je suis simplement en train de dire que c'est la soif que j'avais qui m'a poussé à faire ça. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément aller acheter toutes les Bibles. Parce que tu peux avoir toutes les Bibles dans ta bibliothèque et ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. J'exprime simplement comment cette soif-là m'a porté et m'a permis de grandir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Et bien aimé, toutes les personnes que je connais aujourd'hui, qui réussissent véritablement dans le Seigneur, ont au moins un point en commun. Ce sont de véritables amoureux de Dieu. Des assoiffés de Dieu. Des passionnés de Dieu. Et la grâce que j'ai eue, et je bénis Dieu pour cela, c'est que les premières personnes qui m'ont accompagné dans le couloir de ma destinée, qui m'ont tenu la main pour que j'avance par la grâce de Dieu dans le couloir de ma destinée, étaient des assoiffés et des amoureux de Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est que la soif de Dieu est simplifiée quand tu côtoies les bons modèles. Quand tu côtoies des gens qui ont soif de lui, qui ont soif de sa présence, qui ont soif de sa parole, alors toi aussi, ça va simplifier ta soif de Dieu et ça va simplifier aussi ta croissance spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'époque, j'ai beaucoup été impacté. Peut-être qu'il ne le. Par des gestes simples, par des paroles simples. Peut-être qu'il ne réalisait pas. Mais moi, ça m'a beaucoup impacté. Les personnes qui m'ont aidé, je me rappelle une fois, je ne peux pas oublier ce jour parce que ça m'a tellement impacté. J'étais parti chez le pasteur Ivan. Il n'était même pas pasteur à l'époque. C'était frère Ivan. Frère Ivan. J'étais parti. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois que je voyais une telle scène. J'arrive chez lui, je sonne et il m'ouvre la porte et il avait dans sa main une grosse Bible. Vous n'avez jamais vu ça? On appelait ça la Dex. La Dex. Et donc, j'arrive et puis il était avec sa Bible. Et puis il était en train de dire, oh là, c'est puissant. Oh, c'est fort. Oh, merci Seigneur. Oh non, mais c'est trop puissant cette révélation. C'est fort. Et moi, je le regardais comme ça, je dis... Et je le sentais heureux. Il avait ça. Il était heureux. On dirait comme un enfant. Vous voyez comme un enfant. Et oh, c'est merci Seigneur. Oh, merci. Et j'ai dit. Bon, je me suis dit, non, en tout cas, il faut que j'ai cette Bible-là aussi. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que je me disais, il faut que j'ai aussi cette soif-là. Alléluia. Cette soif. Cette soif. C'est la troisième chose que j'ai comprise. Troisième enseignement, si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne pourras pas grandir en lui. Tu ne pourras pas grandir en Christ. À l'époque, le frère Yves, il n'était pas encore pasteur. Mais il ne sait pas à quel point sa vie et son témoignage m'ont inspiré et m'ont aidé. Il ne sait pas. Je me rappelle à l'époque, vous êtes dans une réunion de prière, d'adoration, dans un culte ou bien, voilà, un temps un peu comme atmosphère de gloire en tout cas. Et puis, les gens prient, pas forcément avec passion, et puis vous entendez une voix au fond. Oh Seigneur! Je dis, oh, qu'est-ce qui? Je te loue, Seigneur! Et puis je me disais, mais lui, il veut se montrer ou quoi? C'est quoi ce... Mais j'ai compris que non. J'ai compris que c'était la soif. C'était la soif. Et puis moi aussi à la maison. Oh Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, oh Seigneur. Oh. Je veux te découvrir. Oh Seigneur. Mon désir, c'est toi. Oh, 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 mon désir, c'est toi. J'aimais cette attitude-là. S'il sent qu'il faut acclamer, il acclame, même si ses voisins sont froids comme de la glace. Il ne se laisse pas impressionner par son environnement. Mais il célèbre Dieu. J'ai aimé ça. Et cette soif-là, je l'ai eu aussi. J'ai cherché à la développer. Et ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'ai continué à avancer. J'ai continué à avancer. Et à un moment donné, j'ai compris une chose. C'est le quatrième enseignement. J'ai compris une chose. C'est que je devais, c'est que je dois servir Dieu. Je dois le faire. Et je dois le faire en m'appuyant sur ce qu'il m'a donné. Que quelqu'un dise amen. Lorsque je dis je dois servir Dieu, comprenons une chose. Je dois le servir dans l'église, dans mon église locale. Rappelez-vous une chose, hein. Tout vrai, tout véritable chrétien est supposé s'attacher, appartenir à une église locale. Que quelqu'un dise amen. L'église n'est pas l'invention des hommes, c'est l'invention de Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu fait a un but. L'église, c'est bon pour toi, mon frère. C'est bon pour toi, ma soeur. Toi qui me regardes, tu habites à peine 10 km d'ici. Et tu fais tous tes cultes par internet. Il y a des gens, ça se comprend. Mais pour toi, toi là, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Il y a des choses que tu peux capter par le direct. C'est vrai. Mais il y a des choses que tu ne capteras pas. Il y a des choses que tu ne capteras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne vais pas développer ça, parce que je l'ai déjà fait l'année dernière. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous devons, j'ai compris qu'il fallait que je serve Dieu dans l'église et également dans la société. Quand je dis servir Dieu dans l'église, ça ne veut pas dire que je sois pasteur. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire que je sois pasteur. Ce n'est pas ça. C'est que je me rende utile dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il faut que ma vie compte. Il faut que ma vie compte. Ta vie peut et doit compter également. Dans l'église, je sers Dieu et dans la société également, je dois servir Dieu. J'aime cette parole de Josué, dans Josué chapitre 24, au verset 15, lorsqu'il dit, il dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Mais ce qui est sûr, ça c'est moi qui ai ajouté, hein, mais ce qui est sûr, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'aime cette parole. En fait, cette parole-là, c'est un enseignement rien qu'à elle-même, cette parole. Il dit moi. Moi d'abord, je sers Dieu. Et parce que je sers, j'amènerai toute ma maison à servir Dieu aussi. Alléluia. Je sers Dieu d'abord dans l'église. Comment je le fais? Je le sers avec ce qu'on appelle les trois T. Que quelqu'un dise les trois T. Les trois T, qu'est-ce que c'est? Les trois T, c'est d'abord mon temps. Ensuite, ce sont mes talents. Et ensuite, ce sont mes trésors. Trois choses que Dieu m'a données. Dieu m'a donné du temps. Nous avons tous 24 heures par jour. Et sur ces 24 heures par jour, il faut apprendre à donner du temps pour servir Dieu. Pour servir Dieu dans l'église. Que quelqu'un dise amen. Nous ne serons pas tous, nous serons pas tous égaux au niveau du temps que nous pouvons consacrer à cela. Il y a des personnes qui ont des emplois du temps familiaux, professionnels et autres qui sont très chargés. Il y en a d'autres qui ont plus de temps. Mais même si tu es très chargé, tu dois arriver à servir Dieu avec au moins une partie de ton temps. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tout à l'heure, j'ai parlé de modèles. Un modèle qui m'a beaucoup impacté en termes de temps, c'est le pasteur Jacques. Pasteur Jacques. À l'époque où je l'ai connu, j'étais épaté de voir quelqu'un donner, consacrer autant de temps pour les intérêts supérieurs du royaume. Ça encore, c'est un modèle. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tu grandis beaucoup plus vite et beaucoup mieux Parce que tu peux grandir aussi de manière difforme, mais tu grandis beaucoup plus vite et beaucoup mieux quand tu as les bons modèles que tu regardes et que tu suis. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné d'excellents modèles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. J'honore avec mon temps, j'honore Dieu avec mes talents également. Comme Betsalel et Oholiab. Dieu leur a donné des talents, une capacité à faire des ouvrages, une capacité à faire des ustensiles, des ouvrages, toutes sortes de choses. C'est un talent que Dieu leur a donné. Et je crois qu'ils se servaient de cette capacité pour gagner leur vie en dehors des aspects spirituels. Mais la Bible dit qu'ils ont apporté leur talent lorsqu'il a fallu confectionner le tabernacle et la tente d'assignation. Que quelqu'un les amène. Ils ont apporté leur talent. C'est-à-dire, les choses que Dieu t'a données, ce n'est pas uniquement pour aller les faire éclore dans le monde. Ça doit servir également pour, si le besoin s'en fait sentir, ça doit servir pour faire avancer l'église locale, pour la faire progresser, pour la faire gagner des territoires. Et tu as reçu beaucoup. Et tu dois également le servir avec tes trésors. C'est ce que j'ai compris. Dans l'église, tu sers Dieu avec ton temps, avec tes talents et avec tes trésors. Franchement, je vous dis, je vous parle de cœur à cœur. L'âme n'aime pas, elle n'aime pas trop les... Vous voyez, quand il y a des challenges que l'Église doit relever au niveau financier. Quand il faut se mobiliser. Ah, l'âme n'aime pas ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris que je devais me faire violence. Parce que vous savez quoi? Il n'y a pas de récolte sans semence. Il n'y a pas de récolte sans semence. Et très tôt, par la grâce de Dieu, j'ai appris à semer, à servir Dieu avec mes trésors. Je pourrais dire beaucoup de choses dessus, mais ce n'est pas le moment. J'ai d'autres choses à vous dire. Mais comprenons juste une chose, c'est que nous devons apprendre à servir Dieu avec ce qu'il nous a donné. Dans l'église, sers Dieu avec ton temps, avec tes talents et avec tes trésors. Quand tu fais ça, tu contribues à dépeupler l'enfer et à peupler le royaume de Dieu et à consolider, à faire grandir les personnes que Dieu amène dans l'église, les personnes qui sont sauvées. Ton temps, tes talents et tes trésors y contribuent. Alléluia. Et je disais également que nous devons apprendre à servir Dieu dans la société, parce qu'il n'y a pas que dans l'église. Dans l'église, oui, mais il y a aussi dans la société. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Jésus a dit, nous sommes la lumière de l'église. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de l'église. Non, nous sommes le sel de la terre. Autrement dit, il y a un fruit que nous devons manifester dans l'église, il y a un fruit aussi que nous devons manifester dans la société. Et la Bible dit, dans Proverbes chapitre 18, verset 16, la Bible dit que les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents d'un homme, lorsqu'on parle des présents d'un homme, ce sont les talents, les aptitudes, les capacités, les choses que Dieu t'a données. Si tu sais les utiliser, ça va élargir tes voies, élargir tes perspectives et ton horizon, et ça va te donner accès auprès des grands. Pourquoi? Pour que tu sois vu auprès des grands? Non. Mais pour que la lumière soit auprès des grands et pour que le sel soit auprès des grands. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est là ta place. Mais pour cela, il faut que tu t'appuies sur ce que Dieu t'a donné. Ce qui m'amène à développer un autre point. Le monde veut nous faire croire que ce sont les diplômes, ce sont tes diplômes, ce sont les diplômes qui ouvrent les voies et qui te permettent d'être la tête et non la queue. C'est la volonté de Dieu que nous soyons la tête et non la queue, n'est-ce pas? Amen. Mais la vérité, c'est que Dieu n'a jamais dit dans sa parole que c'était tes diplômes qui allaient te permettre de le faire. Jamais. Je ne dis pas que les diplômes sont une mauvaise chose. Au contraire, non. Lorsque tu fais des études, plus tu vas loin dans les études, plus ça va t'aider aussi en termes d'organisation, en termes de capacité à gérer plusieurs dossiers, en termes de... Voilà. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la clé pour être la tête. La clé pour être la tête, c'est ce que Dieu nous dit. Et il nous dit quoi? Il nous dit qu'il faut que nous nous appuyions sur ce qu'il nous a donné. Alléluia. On ne peut pas aller désinscrire ton enfant à l'école. C'est une très bonne chose, l'école. Mais la vérité, c'est que tu peux, si tu insistes uniquement sur l'école, sans comprendre et sans chercher à développer ce que Dieu a mis dans ton enfant, il risque de passer à côté de sa destinée. Même s'il a toujours des 20 sur 20 en maths, même s'il a les plus grands diplômes du monde. Vous savez qu'il y a des gens, ils sont majeurs de promo, des promotions de plus grands, des plus grandes universités du monde. Mais pourtant, ils ne réussissent pas dans la vie. Vous savez ça, non? Alléluia. Quel est le point que je veux développer? Il y a quelque temps, il y a un chercheur américain qui a vraiment fait des recherches par rapport à l'intelligence. Parce que le monde veut nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule forme d'intelligence, c'est l'intelligence académique. Tu réussis à l'école, c'est bien. Tu réussis pas à l'école, tu n'as pas de bonnes notes à l'école, tu es bête. C'est ce que le monde veut nous faire croire. Mais nous savons que c'est faux, n'est-ce pas? Et cette personne, je ne sais même pas si c'était un chrétien ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je sais simplement que la Bible dit dans Proverbes chapitre 25, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, n'est-ce pas? Et que la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La vérité, c'est quoi? Pourquoi je dis ça? C'est simplement pour dire que Dieu n'inspire pas, Dieu inspire les hommes, il inspire tous les hommes, pas uniquement les chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu n'inspire que les chrétiens. C'est faux. Dieu inspire tous les hommes. À partir du moment où quelqu'un, même s'il n'est pas de nouveau, mais qu'il constate les choses, qu'il cherche, qu'il sonde, Dieu va passer par lui pour révéler des choses qui vont faire du bien à l'humanité. Oui ou non? Alléluia. Donc, cette personne-là, ce chercheur américain, il a étudié l'intelligence des êtres humains. Et dans ses conclusions, il en a conclu qu'il y a 8 formes différentes d'intelligence. Que quelqu'un dise 8. 8 formes d'intelligence différentes. Et en fait, c'est pas que tu n'es qu'une forme d'intelligence et puis pas les 7 autres. Mais en fait, ce que je crois, c'est que nous avons tous ces 8 formes d'intelligence, mais sauf qu'elles sont à des degrés, elles sont à des degrés différents. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, en fait, lui, il dit 8. Je ne sais pas s'il n'y en a que 8, j'en sais rien. Mais ce qu'il a découvert, ces 8 formes d'intelligence, franchement, je crois que c'est une révélation qu'il a eue de Dieu. Ces 8 types de talents, de capacités que Dieu nous a donné. Alléluia. Première forme d'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence verbale. Ou encore l'intelligence linguistique, c'est la capacité à identifier, sans faire beaucoup d'efforts, à identifier et à comprendre rapidement, en tout cas bien plus vite que les autres, les caractéristiques, les spécialités et les structures d'une langue étrangère. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, c'est une forme d'intelligence. Il y a des gens, vous les prenez, vous les amenez dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue. Ils restent 3 mois dans le pays, je dis bien 3 mois. Au bout de 3 mois, il parle la langue. Toi, ça fait 6 ans. Tu balbuties encore le... Do you speak English? Yes! Anglais, j'ai dit, do you speak English? Yes! Non, mais toi aussi. Do you speak English? Yes! Non, ton yes là est bizarre. On ne dit pas yes, ça c'est bizarre. On dit yes, I do. Il y a des gens, vous les prenez, vous les emmenez 6 mois en Chine, ils reviennent de Chine, ils parlent chinois. Vous les emmenez 6 mois en Roumanie, ils parlent roumain. C'est une forme d'intelligence, c'est extraordinaire. Alléluia. Mais si tu sais exploiter ça, mais ça va t'ouvrir des portes. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez, la plupart des grands diplomates, la plupart des hauts fonctionnaires des grandes institutions comme les Nations Unies, comme la Commission Européenne, ils ont cette forme d'intelligence-là. Alléluia. n'est pas forcément d'avoir 20 sur 20 en maths qui fait la différence. C'est d'utiliser ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Moi, cette forme d'intelligence, bon, I do my best in English, you know. Mais ce n'est pas celle qui est le plus développée. Par contre, quelqu'un comme le pasteur Yvan, ça, je pense que là, il a vraiment ça. Quand il part quelques mois en Italie, il parle italien. C'est extraordinaire. Il parle anglais couramment. Et maintenant, chinois. Non, ça, c'est une forme d'intelligence. Alléluia. Autre forme d'intelligence. Et tu ne dois pas négliger ça. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a donné ça, tu dois le développer. Pourquoi? Parce qu'il dit, les présents d'un homme, ce que Dieu donne à un homme, les capacités, les talents que Dieu donne à un homme, s'il sait l'utiliser, ça va élargir ses voies et ça va lui donner accès auprès des grands. Ne néglige pas ça. Deuxième forme d'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence logique ou encore l'intelligence mathématique. Vous voyez, c'est cette intelligence-là qui fait souffrir tout le monde. C'est l'intelligence qui est la plus prisée, qui est la plus promue, qui est la plus célébrée sur la terre. Notamment dans un pays comme la France. Tu n'as pas fait HEC, tu n'as pas fait Polytechnique, tu n'as pas fait l'ENA, tu n'as pas fait Sciences Po. Interdiction de faire de la politique. Et si tu vas en politique, on te tape dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette forme d'intelligence, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'intelligence académique. Vous voyez, non? Des enfants, ils vont à l'école sans faire beaucoup d'efforts, ils comprennent tout. Ils comprennent tout, tout, tout. Toi, tu sues, tu transpires, tu refais les exercices, il a toujours plus que toi au final. Toujours, il y a des gens comme ça. Et donc, comme il n'a pas besoin de faire d'efforts, lui, il veut jouer. Et donc, il dit, viens, on va jouer. Bon, viens, allez, viens, on va sortir. Viens. Et toi, tu le suis. Enfin, tu l'as suivi. Au final, lui, le soir, il va juste... Il ne va même pas regarder son cours. Parce que pendant le cours, il a tout compris. Lui, il va se coucher. Toi, tu vas aller... Là, toi, c'est maintenant le soir que tu commences à... Voilà. Et puis le lendemain, tu échoues et lui réussit. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, tu as besoin de réviser beaucoup pour pouvoir avoir le même résultat. C'est-à-dire que lui... Il a cette forme d'intelligence qui est vraiment développée. C'est un talent, c'est quelque chose que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. L'intelligence académique. Le problème, c'est que beaucoup de parents, et même des parents chrétiens, peut-être même ton voisin, il insiste uniquement auprès de ses enfants sur cette forme d'intelligence. Tu es bête. Tu as eu 5 sur 20. C'est pas possible. Tu fais honte à la famille. Regarde ton frère, lui au moins il a des 18. C'est pas possible. Est-ce que tu es vraiment de mon sang? Si tu parles comme ça à ton enfant, tu lui fais un mal terrible. Et tu ne comprends pas que c'est pas l'intelligence, c'est pas la forme d'intelligence prépondérante que Dieu lui a donnée. Il lui a donné une autre. Mais si tu sais l'identifier et l'aider à développer ça, mais il va réussir sa vie. Mais toi, tu lui tapes dessus parce qu'il n'a pas 20 sur 20. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des parents, vous brisez le plan que Dieu avait prévu pour vos enfants parce que vous restez dans votre vision rigide, et en plus incorrecte. Lui, il veut faire de la musique. Il a l'intelligence musicale. Et toi, tu lui dis, comment ça? Je suis avocat. Mon père était avocat. Mon grand-père était avocat. Mon arrière-grand-père était avocat. Et celui d'avant... C'est lui qui a inventé le métier d'avocat. Donc tu dois être avocat. C'est peut-être la volonté de Dieu. Mais si ça ne l'est pas et que tu lui imposes ça, il risque d'être frustré. Et combien y a-t-il de gens frustrés? J'en connais plein. Frustrés. Parce qu'ils font dans la vie quelque chose sur la base de ce que leurs parents ont dit. De ce que leurs parents ont voulu. Mais au fond, ils ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas épanouis. Et il y en a même, quand les parents partent, ils changent. Maintenant, ils repartent dans leur vrai appel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut aider nos enfants. Il n'y a pas que les maths, dis-moi amen. Il n'y a pas que l'école. Il faut les aider. Tous, certains ont reçu ce qu'il faut de Dieu pour pouvoir exceller dans le monde académique. Les autres qui n'ont pas reçu ça, ils ont reçu autre chose. Amen. Il faut simplement les aider à avoir le minimum dans le monde académique et déceler les autres choses pour les développer. Parce que c'est ça qui va leur permettre d'avancer dans la vie. C'est ça. Alléluia. Troisième forme d'intelligence, c'est l'intelligence visuelle ou encore l'intelligence spatiale. Lui, regarde, ton voisin, il pense que c'est l'intelligence pour aller dans l'espace. C'est pas ça. Ah, vraiment, toi, c'est compliqué. L'intelligence visuelle ou spatiale. C'est la faculté à imaginer des choses, à se représenter des choses mentalement. La capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde invisible avec précision dans ces trois dimensions spatiales. Est-ce que je me suis ? Je vous donne un exemple. Ça, c'est la forme d'intelligence que la plupart des grands architectes, des grands, sculpteurs, hein, des grands peintres, ils ont cette forme d'intelligence développée. Vous voyez ? Quand vous prenez un grand architecte, tu prends un grand architecte et puis ton voisin, et puis tu les emmènes voir un champ. Ton voisin, il va arriver sur le champ, il va dire, mais il y a la boue ici, c'est vaseux, oh, ça vaut rien. L'architecte, le grand architecte, lui, il va regarder autrement, il va dire, waouh. Ton voisin va regarder, il dit, comment ça, waouh, c'est vaseux, il y a de la boue. Lui, il dit, waouh. À l'ouest, il y a les montagnes. À l'est, il y a la forêt. Au sud, il y a la plage et la mer. Quel superbe hôtel nous pourrons bâtir ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Il voit des choses que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité à se... Voilà, excusez-moi. Il a une capacité à se projeter et à voir des choses que l'on ne distingue pas forcément. Il voit, tu vois un bloc de granit. Toi, tu dis, c'est de la pierre. Le sculpteur de génie, il regarde, il dit, waouh, quelle superbe sculpture se trouve à l'intérieur. L'autre, il dit, mais c'est de la pierre, ça vaut rien. Lui, il va prendre la pierre, il va la tailler. Et puis avoir une superbe sculpture que les grandes entreprises vont vouloir acheter pour placer devant leur siège social. C'est une forme d'intelligence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu arrives à détecter pour toi-même, également pour tes enfants, ce que Dieu t'a donné, serre-le avec ça. Ça va t'ouvrir les voies, tu vas progresser et tu seras la lumière. Non pas pour que ce soit toi qui sois vu, mais pour que tu sois la lumière dans ces sphères-là. Pour que tu sois le sel dans ces sphères-là. Dis à ton voisin, il n'y a pas que l'intelligence académique. Il y a des parents qui ont coupé la destinée de leurs enfants alors que Dieu les avait prévu pour eux de grandes choses dans le monde artistique. Papa, maman, achète-moi des crayons, achète-moi des feutres, achète-moi des feutres. Achète-moi de la peinture, j'ai envie de peindre, papa. Et puis, toi tu dis, oh non, la dernière fois que je t'ai donné ça, tu as gribouillé le mur. Va là-bas. Il a gribouillé le mur. Il était en train de commencer. Après demain, c'était peut-être le futur Picasso ou autre. Toi tu dis, non, prends seulement tes cahiers, révise tes maths. Est-ce que quelqu'un me suit? quatrième forme d'intelligence. Il y a quelqu'un qui ne me suit pas. Ce n'est pas l'intelligence arithmétique, ça. Hein? L'intelligence musicale. Ou encore l'intelligence rythmique. Ça, ce n'est pas tout le monde qui l'a. En tout cas, pas développé. Mais il y en a qui l'ont. Peut-être que tu l'as. Peut-être que tes enfants l'ont. C'est la sensibilité. Vous voyez, c'est une sensibilité innée aux structures rythmiques, aux structures sonores et musicales. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils sont là. Ils n'ont pas de synthé, ils n'ont pas y a rien. Mais ils te font un rythme, ils sont là. Ils commencent à ouvrir la bouche. Ils savent, même s'ils ne connaissent pas les do, ré, mi, fa, si, la, sol. Mais ils savent que dans telle gamme-là, on fait... Lui, toi, tu ne sais pas ça. Mais lui, il le sait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand il marche, vous allez avec lui au magasin. Et puis, il y a une musique sonore. Et puis, il est en train de... Tac, tac, tac. Ici. Oh. Il y a des gens avec le tac 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 tac. Mais ils ont vendu des millions et des millions de disques. Je suis pas en train de donner leur vie en exemple. Je suis en train de donner en exemple la manifestation, le développement du don que Dieu leur a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Tes enfants ne sont pas les mêmes. C'est pas parce que le premier ou la première a réussi dans telle voie, dans tel axe, que les autres, tu vas les obliger à faire la même chose. Dieu a donné différents dons, différentes formes d'intelligence. Alléluia. Cinquième forme d'intelligence, j'accélère un peu, c'est l'intelligence corporelle. L'intelligence corporelle, c'est la capacité à savoir utiliser son corps avec souplesse, de manière pointue et de manière élaborée. Et ça, c'est une intelligence que la plupart des grands athlètes, des grands sportifs ont. Dieu leur a donné ça. Ils ont su développer ça. Et moi, ça me fait toujours rire, toujours sourire d'entendre des gens, notamment certains joueurs de l'équipe de France, des gens qui font des commentaires sur eux, en disant, il est bête, il ne sait même pas parler. Quand il parle, il y a toujours trois fautes au moins, trois fautes par mot. Et ils disent, il est bête, c'est un vaurien, il est bête. Toi, tu dis qu'il est bête, Dieu dit qu'il est intelligent. Parce que Dieu lui a donné quelque chose. Tu dis qu'il est bête. Mais laisse-moi te montrer une chose. Toi, tu dis qu'il est bête. Parce que tu as fait des grandes écoles. Tu as toujours eu 20 sur 20 en maths. Tu sais calculer toutes les choses, les intégrales multiples et tout ça. Mon ami, quand on le place sur le terrain, lui, on le place sur le terrain de foot. Quand le gardien a la balle et il dégage la balle, toi, tu vas prendre ton cahier. Alors, je calcule la trajectoire de la balle. Où va-t-elle aller selon la force du vent et selon la puissance du pied? Donc, ça va... Lui, là, il n'a pas fait ça. Mais là où il est, avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, il sait que la balle va arriver ici. Il sait. Toi, tu n'as même pas encore fini ton calcul. Lui, il est déjà là. Et avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, qu'est-ce qu'il fait? La balle arrive et il sait qu'il faut positionner son corps comme ça. Il le sait. C'est une forme d'intelligence. La balle arrive. Elle arrive et il sait que quand il fait ça, la balle va rester. Elle va rester ici. Toi, quand on envoie la balle, boum, ça repart tout de suite. Lui, il prend la balle, elle reste là. Après, il la fait glisser sur sa cuisse. Il la met au sol, il fait un dribble. Il s'avance, il fait une feinte de frappe, il frappe, il marque, et chaque mois on lui paye 1 million d'euros. Oh. Et toi tu oses dire, il est bête. Il est bête. Lui il marque de la tête, du pied droit, du pied gauche. Et oui, il fait, wow, c'est comme ça, ouais. Et tu dis qu'il est bête. basketteur américain. Enfin, du championnat américain. NBA. Ce sont les sportifs les mieux payés au monde. Au monde. 2 millions, 3 millions de dollars. Oui, oui. Par mois. Il prend la balle. Il prend la balle. Toi, quand tu prends la balle, c'est boum, boum. Non, lui, il prend la balle. Il fait passer. Il prend la balle. Tac, tac. Il prend la balle. Feinte. On lui a appris ça où? Ah, il passe de côté. À 6 mètres du panier, il prend la balle. Avec une manière, on ne lui a même pas appris ça. Parfois, on lui a appris, mais il y en a d'autres, on ne leur a même pas appris. Ils savent qu'il faut prendre la balle comme ça. Toi, quand tu prends la balle, c'est... Lui, il sait qu'il faut prendre la balle d'une certaine manière. Il sait qu'il doit fléchir un peu les genoux. Il sait quelle impulsion, pas trop, pas trop peu. Il sait comment il doit positionner la balle. Et quand il lance la balle, trajectoire. Toi, tu calcules, tu es encore dans tes calculs. Bon, est-ce qu'elle va... Lui, il sait qu'elle va rentrer. La balle rentre. Trois points. Money time. 3 millions. On appelle ça le money time. Et tu dis qu'il est bête? Personne n'est bête. Dis à ton voisin, personne n'est bête. Personne. Alléluia. Ah oui. On se moque du footballeur. On se moque de lui. Parce que quand il parle, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais mon ami, lui, sur sa feuille de paye, il y a 3-4 zéros de plus que sur la tienne. Et tu dis qu'il est bête. Franchement, réfléchis un peu. Ensuite, l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à entrer facilement en relation avec les autres. C'est une forme d'intelligence. C'est un don. C'est quelque chose que Dieu donne. Ça vient de Dieu. Vous voyez, non? C'est, y a des gens, quand vous les rencontrez pour la première fois, vous avez l'impression de les avoir connus toute la vie. Parce qu'ils ont ce contact-là. Je vous assure, c'est une forme d'intelligence. La plupart des grands politiciens, hein, ils ont ça. Pas tous, hein. Il y en a d'autres. Ils n'ont même pas de programme, mais ils ont ça et gagnent les élections. Ils n'ont même pas de programme, mais ils ont ça. C'est-à-dire que quand ils arrivent, hey, c'est-à-dire qu'ils passent dans la foule, ils te saluent, tu as l'impression d'être la personne la plus importante au monde. C'est l'intelligence interpersonnelle. La plupart des grands leaders, ils ont ça. Et c'est facile à déceler, notamment chez les enfants. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez à l'école du dimanche, vous allez constater des choses. Il y a des enfants, ils sont là, ils arrivent en avance. Et puis il pose la question au moniteur, à la monitrice. Est-ce que un tel est là? Il est là, Junior, ou pas? Il est là, Junior? Non. Oh. Et l'autre, il arrive, sa maman vient le déposer. Monitrice, tata, tata, il est là, Junior? Non. Oh. Et puis là maintenant, la maman de Junior amène Junior. Junior arrive. Tous les autres, Junior, 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 Junior. Pourquoi? Parce que Junior, quand il arrive quelque part, tout le monde est à l'aise. C'est une forme d'intelligence. Tiens, ton voisin, il n'y a pas que les maths. S'il utilise ça, si tu l'apprends à développer ça, mais ça va lui ouvrir les voies. Seigneur, aide-nous. Capacité à fédérer, c'est ça. Intelligence interpersonnelle. Ne juge plus, s'il te plaît. Ne juge pas tes enfants à leurs notes en maths. Aide-les à faire le meilleur dans le monde académique. Mais surtout, prie et cherche à déceler ce que Dieu a mis en eux et à le développer. C'est ça qui va faire leur réussite. C'est ça. J'avance pour terminer. Septième forme d'intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. L'autre, c'était interpersonnel avec les autres. hein, interpersonnelle. Là, c'est l'intelligence intrapersonnelle. En fait, là, on parle de la capacité à bien se connaître soi-même, à s'auto-évaluer, à savoir prendre du recul, à savoir se sonder soi-même, avoir une bonne connaissance de soi. Est-ce que quelqu'un me suit? À savoir chercher des motifs d'encouragement alors que personne autour de toi ne t'encourage. C'est ce qu'on appelle l'intelligence intra-personnelle. Oui, non? Je donne un exemple. Quelqu'un comme Nelson Mandela, il a ça. Il a été enfermé pendant 27 ans, c'est ça? 27 ans. Il ressort de là sans avoir l'envie d'aller éliminer tous ceux qui étaient contre lui. Non, mais avec l'envie de réconcilier un peuple qui a été meurtri par l'apartheid. Savoir rentrer en soi-même. Savoir chercher des... Vous voyez, David, le roi David, il avait cette capacité aussi. Alors que tout autour de lui s'effondrait, même ses propres soldats, ses propres généraux. La Bible dit qu'à des moments, son armée voulait lui-même le faire mourir. À ce moment-là, il s'est rentré en lui-même, se connecta à Dieu, rentré en lui-même pour retrouver de la force. Intelligence intrapersonnelle. Alléluia. Et laissez-moi vous dire une chose. Tous les leaders, ils doivent développer cette intelligence-là. Notamment les pasteurs. Parce qu'à des moments, tu te sens seul. Seul. Et tu as besoin de savoir que tu peux arriver quand même à faire ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour terminer, on parle de l'intelligence naturaliste. Ton voisin est choqué. Je parle de l'intelligence naturaliste. C'est l'intelligence de la nature. C'est pas autre chose. L'intelligence naturaliste ou encore l'intelligence de la nature. C'est la 8e forme d'intelligence que ce chercheur américain-là a découvert. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les 8-là sont vraiment pertinentes, vraiment inspirées. Il s'agit de la faculté à observer la nature sous toutes ses formes et la capacité à reconnaître et à classifier donc les formes de la nature et à reconnaître le langage de la nature. Est-ce que quelqu'un me suit? Je donne un exemple. Les meilleurs chasseurs en pleine nature, ils ont développé cette intelligence-là. Les meilleurs guides de montagne, ils ont développé cette intelligence-là. Ils savent, ils connaissent les langages de la nature. Quand le vent est comme ça, quand dans telles circonstances, il vaut mieux pas monter. Il y a toujours des plaisantins qui montent et puis après on retrouve leur cadavre au fond des crevasses. Les grands navigateurs, ce sont également des gens qui ont cette forme d'intelligence-là. Ils savent reconnaître quand la mer peut paraître bien. Toi, tu dis ça va et tu y vas. Et puis, en fait, derrière, il y a une tempête. Mais eux, ils savent reconnaître ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Ils savent. Ils savent que quand la mer est comme ça, quand le temps est comme ça, ça signifie telle chose ou que telle chose ou telle autre va arriver. Alléluia. Il y a même dans certains endroits, vous avez des gens qu'on appelle les guérisseurs, qui guérissent les gens avec des plantes. Hein? Ils ont également cette... Bon, il y a aussi des charlatans, hein? Mais il y en a d'autres qui le font. Hein? Amen. Est-ce que ça va? J'ai dit beaucoup de choses. Je prie simplement que dans tout ce que j'ai dit, la partie que Dieu voulait que tu gardes, il faut que tu la gardes. Amen. Ce que j'essaie simplement de dire, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, mais simplement, je voulais simplement dire ceci. C'est que ta vie peut et doit compter. Elle peut et doit compter. Et elle doit compter. Au départ, rien ne disait que ma vie pouvait compter. Je ne dis pas que je suis arrivé. Je dis que par la grâce de Dieu, il y a quand même un peu de fruit qui est sorti. Amen. Donc si Dieu a pu le faire avec moi, il peut le faire avec toi. Je disais simplement que dans mon parcours, avec Dieu, j'ai compris plusieurs choses. Plusieurs. La première, c'est que Dieu est réel. La deuxième, c'est que Dieu m'aime. Tel que je suis et quel que soit mon passé. Il t'aime tel que tu es, quel que soit ton passé, mais il ne veut pas te laisser tel que tu es. Alléluia. Troisième chose, si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne pourras pas grandir en lui. Tu ne pourras pas, tu resteras un épios, un bébé spirituel. Quatrième enseignement, tu dois comprendre, tu dois servir Dieu en t'appuyant sur ce qu'il t'a donné. Il t'a donné du temps, il t'a donné des talents, il t'a donné des trésors. Sers-le dans l'église avec ça. Et dans la société, sers-le également avec les capacités, avec les aptitudes, avec la forme, les formes d'intelligence qu'il t'a donné. Parce que c'est lorsque tu utiliseras ces présents qu'il t'a donné que ça va élargir tes voies et te donner accès auprès des grands. Et quand tu seras auprès des grands, ce n'est pas pour aller te montrer. Non, c'est pour aller le montrer lui. Alléluia. Pour apporter la bonne odeur de Christ là où Dieu t'emmène. Pour que tu sois la tête et non la queue. Je veux m'arrêter là. Nous allons incliner la tête. Ah Seigneur, notre Père et notre Dieu. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Seigneur, que chacun de nous comprenne qu'il y a une histoire que tu as prévue qui doit être vécue. Seigneur, que chacun de nous comprenne que tu es réel, réel. Nous savons que tu existes, mais certains n'ont pas encore compris, touché, goûté la dimension réelle de ta présence. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre cela. Accorde-nous la grâce, Seigneur, également, d'avoir soif de toi, soif de ta présence, soif de ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous appuyer pour réussir dans la vie sur ton esprit et sur tout ce que tu as investi, tout ce que tu as semé en nous. Parce que la Bible ne dit pas, dans Proverbes chapitre 18, verset 16, la Bible ne dit pas que c'est par les diplômes d'un homme, ce sont les diplômes d'un homme qui lui élargissent la voie, il lui donne accès auprès des grands. Non. Le monde académique, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas celui qui apporte forcément le succès. Le véritable succès, la véritable réussite, tu nous l'as donné. Tu nous as donné les clés. C'est ce que tu as mis en nous, en chacun de nous. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, pour chacun de nos enfants, de discerner ces présents que tu nous as donnés, que tu leur as donnés, afin de les développer, afin que chacun de nous soit la tête dans les domaines que tu as prévus pour nous, Seigneur. Non pas que nous allions dominer sur les autres, mais que nous allions dominer dans des secteurs, Seigneur. Et que tous les secteurs, tous les domaines de la vie sur la terre puissent être saturés d'hommes et de femmes qui sont sortis de toi et qui impactent, qui sont la lumière du monde et le sel de la terre. C'est notre sincère prière, Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Et je pense que nous pouvons encore vraiment acclamer le Seigneur comme il se doit. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit que la parole est claire, ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples, aux humbles. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Cet après-midi plutôt, nous sommes reconnaissants. Merci d'avoir emmené dans ta maison ton fils. Merci de l'avoir utilisé pour nous parler de ta part, Seigneur. Renouvelle-le. Fortifie-le, Seigneur. Nous bénissons sa famille, nous bénissons son ministère. Et nous te disons simplement merci. Merci pour ce que tu nous as rappelé cet après-midi. Merci, Seigneur, parce que tu es un bon Dieu. Tu as pensé à tout le monde, Seigneur. Tu nous as équipés de tes talents, des dons précieux, afin que nous puissions compter sur cette terre. Afin que, Seigneur, la mission pour laquelle tu nous avons envoyés ici sur cette terre puisse être accomplie. Que nous puissions manifester ton règne, puissions manifester, Seigneur, ton caractère. Nous puissions manifester, Seigneur, ce que tu as enfoui au-dedans de nous, sur cette terre. et que le monde voit au travers de nos vies que tu es réel, que tu es vivant, que tu es un Dieu capable de transformer une vie, Seigneur. Tu es un Dieu capable, Seigneur, de prendre quelqu'un sur qui le monde avait mis une croix et de faire de lui simplement un champion, un témoin vivant de ton amour, de ta bonté et de ta fidélité. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Amen. Merci Seigneur. Nous arrivons à un autre moment important de ce culte de célébration. Alors que nous prenons congé de nos frères et sœurs qui sont connectés avec nous depuis Internet, nous allons nous préparer à communier à sa table cet après-midi. Donc je vais vous demander de bien vouloir reprendre place pour ceux qui le peuvent. Et je vous demanderai également de faire un effort supplémentaire. Donc à toutes les personnes qui se sont préparées à communier à la table du Seigneur, cet après-midi, je vous demande encore de vous tenir debout. Nous allons tous ensemble venir dans sa présence et nous qui avons accepté cette invitation qu'il nous a donnée ce matin. Alléluia, quel privilège de venir dans sa présence. Quel privilège également de répondre à son appel, de répondre à cette invitation. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas un rituel. Hein. C'est un moment très important. C'est vrai que nous le faisons. Que sans cet acte qu'il a vraiment accompli à la croix, nous ne serions pas ici. Alors préparons nos cœurs à communier à sa table cet après-midi.